bonjour et bienvenue sur Paris FM Lyon Dauphiné en ce dimanche 5 mai 2024. Il est tout pile 10h et vous avez rendez-vous avec Philippe Viguier de l'église protestante évangélique de Villeurbanne pour votre message fin de vie.
Fin de vie avec le pasteur Philippe Viguier.
Être un chrétien peut être décourageant. Être un chrétien en France parfois peut être décourageant. C'est vrai, nous sommes peu nombreux, nous sommes peu entendus, nous sommes souvent mal vus. Les valeurs de la société sont de plus en plus opposées à ce que l'on croit. Et puis, beaucoup d'entre nous, on peut passer notre vie entière à témoigner au travail, témoigner à des voisins, témoigner à notre famille sans jamais voir des proches se convertir. Ça peut être dur. Ça peut être dur, la vie de chrétien. Et avec peu de fruits, des fois, on peut se décourager. On peut devenir défaitiste. On peut se poser la question, mais est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Est-ce que dans un pays aussi noir, ténébreux que la France, on peut arriver à vraiment être une lumière et porter du fruit? Quand si peu de personnes acceptent l'invitation à suivre Jésus-Christ, on peut se poser des questions et des fois, on peut se décourager. Mais c'est dans les moments de doute, peut-être les moments de fatigue, que regarder dans le livre des Actes à nouveau est tellement encourageant. Quand on regarde dans le livre des Actes, Paul, on regarde les voyages missionnaires de Paul, quand c'est que Paul va dans une ville où le contexte est favorable à l'évangile? Presque à chaque endroit où il va, c'est défavorable. Et pourtant, l'évangile perce les ténèbres, l'évangile s'établit et l'évangile sauve des âmes pour un salut qui est éternel. Et en particulier, aujourd'hui, on arrive dans une des villes les plus sombres qu'on connaît du temps de l'apôtre Paul, la ville de Corinthe, connue comme la Las Vegas du 1er siècle. Une ville de péché, une ville de vice, une ville d'immoralité. Paul arrive dans cette ville qui est connue pour la débauche et Dieu va faire un miracle, va établir une église. Horace, un auteur et poète du 1er siècle avant Jésus-Christ, décrivait Corinthe comme une ville où seuls les plus durs pouvaient survivre. C'était une ville extrêmement prospère. On décrit Corinthe comme la troisième plus grande ville de l'Empire romain, après Rome et après Alexandrie. Et une des richesses, une des raisons de sa richesse, c'était la possibilité de passer de la mer Méditerranée à la mer Adriatique par un canal. Alors le canal a été fini d'être creusé il y a un peu plus d'un siècle, mais à l'époque ils apportaient les marchandises sur cette voie-là. Aujourd'hui on le fait comme ça, mais ça permettait de partager les biens et beaucoup de voyageurs venaient dans la ville de Corinthe et c'était une ville qui était devenue très riche. Et j'ai un peu de compétition ce matin, mais je vais gagner. Ok. Corinthe. Contrairement peut-être à ce qu'on pourrait penser, qui était la capitale régionale de la Grèce, était pourtant une ville romaine. Et beaucoup de choses de la mauvaise réputation qu'on connaît de Corinthe étaient encore pires du temps des Grecs. Peut-être vous avez lu cette description que Corinthe, il y avait 1000 prostituées sacrées dans le temple d'Aphrodite, la déesse de l'amour. Bah, c'était du temps des Grecs, donc c'était avant que la ville soit détruite par les Romains et rebâtie par Jules César en 44 après Jésus-Christ. Mais dans le langage grec, des termes comme se corinthianiser voulaient dire vivre dans la débauche ou dans la prostitution. Une fille corinthienne voulait dire, en d'autres termes, voulait dire une prostituée. Donc Corinthe avait vraiment une mauvaise réputation et quand on voit les lettres que Paul écrit aux Corinthiens, on voit quelque part la culture essayer de rentrer dans l'église avec des grands combats. Quand tu regardes les délires qui se passent dans l'église de Corinthe, il y avait des gens qui s'enivraient pendant la scène. Il y avait une personne qui commettait un inceste adultérien, couché avec la femme de son père. Il y avait des gens qui reniaient la résurrection. L'église de Corinthe a eu de nombreux problèmes. Mais c'est une des seules églises, quand Paul écrit, il leur dit qu'il est fier d'eux. Une église où malgré l'épaisseur des ténèbres, l'évangile va vraiment percer et faire une belle œuvre, et faire des belles choses. Donc on arrive au chapitre 18, la dernière étape du deuxième voyage missionnaire de Paul. Donc dans le livre des Actes, on voit trois voyages missionnaires. Là, c'est le deuxième voyage, où il est revenu dans les régions où il avait commencé, dans la Turquie actuelle. Dieu ferme les portes, il voulait aller vers Éphèse, Dieu ferme les portes, il passe en Grèce. Des belles choses se passent, avec des défis. Et là, c'est le dernier stop de Paul, où il va vraiment s'établir. Il va s'établir longtemps, pendant 18 mois. Et là, l'évangile va percer dans les ténèbres. Et on voit la naissance d'une église, et comme on le voit dans le livre des Actes, comme on le voit de nos jours, la naissance de chaque église est une œuvre surnaturelle, miraculeuse et magnifique, dans laquelle on peut vraiment, vraiment se réjouir. Et Dieu va faire naître, dans cette ville sombre, une église. Et comme Paul va le dire aux Corinthiens, par les choses faibles de ce monde. Au travers de l'épreuve, Dieu va faire briller sa lumière. Et on va regarder ce matin à 4 épreuves dont Paul va traverser et auxquelles Dieu va répondre par une lumière douce, une lumière gracieuse et une lumière glorieuse. Tout long, il y avait, je pense, 38 colonnes, il en reste 7. Mais on voit un petit peu la ville de Corinthe. Quand on regarde un petit peu aux vestiges, Corinthe est une ville où il y a beaucoup, beaucoup de vestiges archéologiques. On peut passer plus d'une journée à tout visiter. Peut-être ceux qui ont fait de l'architecture connaissent l'ordre corinthien, dans lequel voilà, on voit les belles décorations sur le haut des piliers. Paul va passer par plusieurs épreuves. Et la première, c'est pas une petite épreuve, c'est une épreuve que beaucoup d'entre nous connaissons, l'épreuve de la solitude. Paul arrive à Corinthe, une ville qui est pas très attirante quand t'as le Saint-Esprit dans ton cœur, à cause de tous ces ténèbres. Il arrive seul. Et dans un temps, probablement, si j'étais à sa place, je serais découragé. Il est arrivé dans cette ville, Athènes, qui tu dis, un grand penseur comme Paul se dit, mais il y a des penseurs qui vont se convertir, on va pouvoir influencer le monde pour Christ. Et il n'y a pas de penseurs qui se convertissent. Il arrive à l'Areopage, il a une belle occasion de témoigner devant des hauts dignitaires, mais il n'y a pas assez de personnes pour commencer une église. Et Paul doit partir. Et je sais pas si Paul s'était fait des films en disant, je vais aller à Athènes, il va se passer des choses merveilleuses, comme peut-être j'ai vu dans d'autres villes. Il n'y a pas grand chose qui se passe. Donc, c'est bien de se replacer un petit peu dans ses sandales, voyager un petit peu avec lui alors qu'on arrive au chapitre 18 et on va lire des versets 1 à 3. On lira tout, on lira jusqu'au verset 22, partie par partie. Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif du nom d'Aquila, originaire de Pont, qui venait d'arriver d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les juifs de quitter Rome. Il se lia avec eux. Comme il avait le même métier, il resta chez eux et ils travaillèrent ensemble. Ils étaient fabricants de tentes. Alors, comme je disais, je ne veux pas faire une analyse psychologique de Paul, je ne veux pas trop lire entre les lignes, mais je me dis, voilà, si j'étais à sa place, je pense que j'aurais été découragé. Tu vas dans Athènes, t'as pas d'équipe, t'es seul, il y a rien qui se passe. T'arrives à Corinthe tout seul, sans encore ton équipe, dans une ville vraiment sombre, comme je disais, le Las Vegas des anciens temps. Il arrive là-bas tout seul, et puis il arrive là-bas et il a pas d'argent. Il doit recommencer un travail. Et je pense que des fois, le sentiment de nécessité accentue le sentiment de solitude. Paul est missionnaire. Et c'est vrai que quand t'es missionnaire, quand t'es envoyé, quand tu vas faire un travail pionnier, bah c'est encourageant d'être soutenu par des personnes qui te soutiennent financièrement, qui prient pour toi, qui sont derrière toi. Ça a du poids tout cela. Et là, Paul, il arrive et il doit travailler. En d'autres termes, il n'a pas de quoi subvenir à ses besoins. Il n'a pas d'équipe. Il est dans une ville où il n'y a pas l'évangile. Et je pense que Paul, probablement, doit se sentir très seul. Depuis le commencement des voyages, j'ai l'impression que c'est la première fois où Paul va reprendre son métier. Le métier qu'il avait, probablement de son éducation, dans la culture juive, tu reprenais le métier de ton père. Même ceux qui étaient destinés à être rabbins, ce qu'on pense que Paul avait fait par ses études, apprenaient aussi le métier de son père, qui était faiseur de tentes. Un terme en grec qui veut aussi dire ceux qui travaillent le cuir. Donc Paul était un artisan du cuir. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on a un petit peu romantisé l'approche, on appelle faiseur de tente, celui qui travaille pour se venir à ses propres fins, pour être dans le ministère. Et il y a des moments où c'est nécessaire, et c'est très louable, mais Paul, j'ai l'impression que dans ce contexte, c'est plutôt décourageant. Et d'ailleurs, on va le voir au verset 4 et 5, quand Silas et Timothée arrivent, et ils arrivent, on va voir dans d'autres passages, avec des fonds missionnaires pour l'œuvre, c'est comme s'il est soulagé et il peut pleinement s'investir dans l'évangile. À d'autres endroits, Paul, il va être très fier de dire « Non, moi, j'ai pas demandé l'argent des autres, j'ai travaillé avec mes propres mains. » Mais là, dans ce contexte, j'ai l'impression qu'il est découragé Et avant que Paul et avant que Silas et Timothée arrivent, on voit que il n'est pas complètement dévoué, complètement libéré pour travailler autant qu'il le veut. Alors on va voir quand il écrit sa deuxième lettre aux Corinthiens, il va leur dire ceci: lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai ni été à la charge de personne, car les frères venus de Macédoine, donc c'est la ville de Philippe, c'est la ville de Thessalonique, Bérée, d'où il arrive, ont pourvu à ce qui me manquait. En tout, je me suis bien gardé d'être à votre charge et j'en me garderai encore. Donc oui, Paul a commencé ce travail, mais à ce moment-là, ce n'était pas vraiment à quoi il aspirait. Et c'est vrai que dans un ministère, mon observation, c'est que si tu veux qu'un ministère se développe, il faut du temps. Et des fois, quand tu veux créer du lien avec la communauté, des fois, pour une implantation, ça a plus de sens d'avoir un métier que d'être libéré à plein temps quand tu n'as finalement pas eu la charge d'une église ou d'autres choses. Mais là, on voit que Paul, pour être efficace, il a besoin de temps. Il est un petit peu découragé, il est seul, il doit travailler à côté et c'est un petit peu difficile pour lui. Alors, ces questions financières du temps de Paul comme du temps d'aujourd'hui, à mon avis, c'est du cas par cas, du personne par personne, du situation de vice et d'immoralité. Il a besoin d'être encouragé. Paul cherche de la compagnie, il cherche de quoi vivre. Et là, il va trouver un couple qui va devenir parmi ses meilleurs amis de Rome. Ça s'est fait en 49 après Jésus-Christ. Donc probablement, Paul arrive à Corinthe vers 50-51. Et Priscille et Aquila arrive en 49, après cet édit, ou un petit peu après. Donc peut-être ils sont là depuis 6 mois, un an et demi. Et l'amitié dans l'église permet ces choses-là. Et leur amitié va aller très loin. Priscille et Aquila, Paul va les décrire en Romains comme des collaborateurs. Donc après Corinthe, il a envie d'aller à Éphèse, il va les laisser là-bas. Et puis, chose faible du monde, dans l'amitié entre chrétiens, qui peut nous soutenir tellement dans les moments d'épreuve. Donc on a cette première épreuve, Paul arrive à Corinthe, et puis on a cette belle réponse de Dieu, miraculeuse. Au-delà maintenant, j'irai vers les non-juifs. Il sortit de là et se rendit chez un dénommé Titus Justus, un homme qui craignait Dieu et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, a ce ministère de la prédication. Et c'est ce qu'il va faire. Quand Paul et Silas arrivent, il est libéré, il est soutenu par l'équipe, il est probablement libéré aussi financièrement. Et là, il se donne à fond. Mais c'est quoi l'impact? Il commence une église. J'ai beaucoup de concurrence ce matin. Alors, je ne sais pas si Paul avait beaucoup de choix, mais voilà, on voit qu'il y a du fruit, mais la situation n'est pas idéale. On comprend pourquoi Dieu va venir l'encourager. Et là, quelle belle manifestation de Dieu qui va, dans une vision dans la nuit, dire à Paul: toi, je vais te faire 3 promesses. Je vais être avec toi. Je vais faire en sorte que personne... Une ville où il y a une culture anti-Dieu très prononcée. Paul commence son ministère dans une situation difficile. L'opposition est très rapide et très ferme. Et pourtant, un Dieu dont la lumière peut percer n'importe quelle ténèbre. Et ça, c'est encourageant pour nous. Quand on a une culture qui, des fois, on a l'impression, nous recouvre et nous opprime, la lumière de Dieu, elle est plus forte. Et un du parcours de Paul, l'épreuve de la confiance, où la foi de Paul va être mise à l'épreuve. Dieu lui a fait une promesse, mais les épreuves arrivent. Et puis aussi de faire confiance aux autres. Comment faire quand personne ne s'attaquera à toi? Dieu, oui. C'est bien, il y a une personne qui suit, ok. Mais Dieu a fait cette belle promesse, mais un peu comme Dieu va tester Abraham. Voilà, donne-moi ton fils. Et là, trouvé par l'empereur lyonnais Claude, les Juifs avaient le droit, bon, ils avaient été chassés de Rome, mais ils avaient le droit dans l'Empire romain de pratiquer leur religion. Mais là, l'attaque des Juifs, c'est dire à Galion: nous on a le droit, mais eux les chrétiens n'ont pas le droit. Vous imaginez le précédent que ça leur a fait, finalement un petit peu flou, parce que Paul est amené devant le tribunal, le gouverneur dit bon, tant pis, on s'en fiche. Et là, il y a quelqu'un qui va se faire battre. Et cette personne, c'est qui? C'est Sosthène, qui est le chef de la synagogue. Donc là, les traductions, des fois, vont mettre grec entre parenthèses. Ou on ne sait pas, en fait, qui bat qui, pourquoi. Bon, certains vont dire c'est les Grecs qui ont un peu d'antisémitisme, qui disent mais ces Juifs nous ont fait perdre du temps et ils vont battre le chef de la synagogue. Donc finalement, cette attaque des Juifs est retournée contre eux. Ou sinon, certains se disent mais non, c'est les Juifs qui vont battre Sosthène, qui était favorable à l'évangile et qui allait pas aussi loin, qui voulait y aller. Il devient chef de la synagogue et puis qui va devenir un des chefs de l'église à Corinthe. Donc on voit vraiment, Dieu fait des choses miraculeuses dans cette ville. Il va retourner des situations et il va permettre non seulement de protéger l'église à Corinthe, mais de la protéger dans tout l'Empire romain. Et que finalement, voilà, on voit les autorités romaines qui ne vont pas prendre position contre les chrétiens. Et on voit la fin de ce passage où Paul va partir de Corinthe et puis aller à Éphèse, mais il ne va pas y rester. Paul resta encore assez longtemps en Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et sœurs et embarqua pour la Syrie avec Priscille et Aquilas. Il s'était fait raser la tête à Sancheré, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse, où Paul laissa ses compagnons. Lui-même entra dans la synagogue et s'entretint avec les Juifs, qui lui demandèrent de prolonger son séjour avec eux. Mais il refusa et prit congé d'eux en disant « Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous si Dieu le veut. » Et il partit d'Éphèse en bateau. Il débarqua à Césarée et monta à Jérusalem pour saluer l'Église. Puis il descendit d'Antioche. C'est un petit peu ironique. On a vu comment le deuxième voyage missionnaire de Paul commence. Il quitte la Judée. Il reva dans les premières églises qu'il a implantées, à Derbe, à Lystre, à Iconium. Et puis de là, il essaye d'aller vers un homme qui finalement il n'a pas fait une idole de commencer une église à Éphèse à ce moment-là. Ni quand les portes étaient fermées pendant son deuxième voyage, au début, ni à la fin. Paul apprend à faire confiance aux autres. Il le fait comment ? Il va laisser Aquilas et Priscille dans cette ville d'Éphèse. Et ça, je trouve ça chouette, parce que comme lui avait préparé le terrain un petit peu à Corinthe tout seul, là, il va laisser une équipe. Le passage nous dit qu'il laisse ses compagnons. Alors, je ne sais pas quels compagnons il laisse. Il y avait Luc, il y avait Silas, il y avait Timothée. Peut-être il en prend quelques-uns avec lui, peut-être Timothée et Silas qui avait été envoyé avec lui de Antioche, on ne sait pas. Mais Paul fait confiance. Et puis on va voir des belles choses à sa lumière. Et là, c'est ce qu'on voit. Des amitiés intentionnelles, de la persévérance et beaucoup de grâce de la part de Dieu. Prions ensemble. Père Céleste, peut-être comme Paul en début de ce ministère à Corinthe, nous pouvons être découragés parfois de voir peut-être peu de fruits, de voir peu de personnes se convertir autour de nous, de voir l'influence de la culture qui grandit, de se sentir parfois démunis. Père Céleste, si tu as implanté une belle église à Corinthe, tu vas faire des belles choses à Lyon. On veut te faire confiance. De nous de s'attacher à ta parole, de nous de ne pas perdre notre zèle pour partager la bonne nouvelle et être lumière autour de nous. Père Céleste, nous n'avons qu'une vie à vivre sur terre. Et nous prions qu'elle puisse porter du fruit pour toi. De nous de s'attacher aux choses célestes. De nous de persévérer. Et aie pitié de nous, Père Céleste. Sauve des âmes dans Lyon, dans la francophonie. Et utilise-nous pour cela. Au nom de Jésus, notre Sauveur, nous prions. Amen.
Ce message Pain de vie avec le pasteur Philippe Viguier de l'église protestante évangélique de Villeurbanne-Cusset vous a été proposé par Phare FM Lyon Dauphiné. Pour en obtenir une copie, merci de téléphoner et de laisser un message au 04 69 00 81 50 04 69 00 81 50 ou bien de nous envoyer une demande par mail à lyon@pharefm.com. Merci.
Et sur Phare FM Lyon Dauphiné, vous avez aussi la possibilité de commander un exemplaire gratuit de la Bible. Donc n'hésitez pas à nous faire une demande par mail à lyon@pharefm.com ou directement via notre site internet www.pharefmlyon.com. Mais sans plus tarder, tout de suite, le meilleur de la musique inspirée redémarre avec Your Presence is Heaven d'Israël Houghton et des New Breed.
Is like you, Lord, in all the earth. Matchless love and beauty, endless worth. But nothing in this world will satisfy. Jesus.
Jesus, you're the cup that won't run dry. Your presence is heaven to me. Oh God, your presence is heaven to me. You're the treasure of my
en louange sur Phare FM Lyon Dauphiné avec David.
Homme de tout le fils de Dieu, trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui qu'on a méprisé, faussement accusé, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Venu du ciel sur la terre pour nous réconcilier, pour racheter et pardonner ceux qui l'ont crucifié. Elle était payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché est vaincu, son emprise n'est plus et m'a libéré pour l'éternité.
Très heureux de vous retrouver, de vous proposer vos messages pleins de vie, votre chronique parole du jour, ainsi que le meilleur de la musique inspirée qui reprend tout de suite avec notre ami Phil Wickham et son titre Sunday is Coming.
A great light dawns in Galilee. Some say madman, some say king. Wonder-working rebel priest, Jesus Christ the Nazarene. He knew well what it would take to free us all from sin and grave. A perfect man would have to die, and only he could pay that price.
Friday's good cause Sunday's coming. Don't lose hope cause Sunday is coming. Devil, you're done, you better start running. Friday's good cause Sunday is coming. So we let those soldiers take him in, as his friend betrayed him with a kiss. And there before the mocking crowd, like a lamb to the slaughter didn't make a sound. Did he carry that cross to Calvary? And he shed his blood to set us free. As the nails weaving in the sky were dark, the redemption of the world was on his heart. Friday's good cause Sunday's coming. Don't lose hope cause Sunday's coming. Devil, you're done, you better start running. Friday's good cause Sunday's coming. Then he breathed his last and bowed his head, the Son of God and man was dead. With bloody hands, tears on their face, they laid him down inside that grave. But that wasn't the end. That wasn't the end. Heaven sings to him alone. We watch and wait like a bride for a groom. Oh, church, arise, he's coming soon.
Oh, entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien, car tu es ma source. Oui, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur. Tu es mon Père, tu restes Dieu dans le creux de tes bras. J'ai besoin. Time.